À voix nue. Cette semaine, Serge Toubiana rencontre Margaret Mengoz. Ce soir, où va le cinéma ?
Dans ce cinquième et dernier volet, Margaret Mengoz, j'aimerais connaître un peu votre point de vue sur l'avenir du cinéma. On est dans une période un peu charnière. Est-ce que les spectateurs continueront-ils d'aller voir des films dans les salles de cinéma, ou est-ce qu'ils vont préférer les films en VOD ou à la SVOD ou en streaming sur les plateformes numériques qui se développent aujourd'hui, Amazon, Netflix, bientôt Disney, Warner? Comment voyez-vous l'avenir du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant en France et en Europe, vous qui êtes vraiment une productrice, je dirais, qui a arpenté ce cinéma européen depuis une quarantaine d'années? Et est-ce que les séries télévision, ça vous intéresse au Losange? Est-ce que c'est un secteur que vous avez envie d'explorer, ou vous préférez rester là où vous êtes, dans le cinéma?
Moi, je sais pas faire les séries. C'est toute une technique. Je connais pas d'auteur capable de faire une... Bon. Je vais d'abord répondre à votre première question. Nous, même si on est distributeur, on fabrique du programme. On raconte des histoires. Donc, si les diffuseurs sont Netflix, les services publics, les services payants, des télévisions, moi, ça m'était un peu égal. Eux, ils diffusent. Et de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de marchandises. Ils ont besoin de programmes. Tous. Donc, en production, c'est pas gênant. Du tout. Je suis pas exploitant. Pour la distribution que nous faisons, ça devient très difficile. De plus en plus difficile. Parce que, rappelez-vous, avant on avait la première exclusivité, la deuxième exclusivité, avant que le film s'élargisse à la province et tout ça. Et maintenant, on programme quasiment à la séance, plus par semaine, parce que avec les numériques, il n'y a plus la lourdeur du matériel. Donc, on devait payer, des VPF, c'était une contribution à l'installation numérique des salles, parce que la numérisation de toutes les salles a été payée, en fait, par des aides de l'État, du CNC, et par les distributeurs qui payaient les fameux VPF à la salle pour leur permettre de rembourser le coût de la numérisation dans leur salle. Enlever les vieux projecteurs 35, les envoyer en Afrique, et donc, ça n'a presque pas de coût de mettre un film dans une salle. Donc, on est passé sur des films, même avec un espoir de recette très moyen, à 400 écrans, à 500 écrans. Et ça, c'est un peu compliqué, parce que on a beau faire toutes les études en allant voir les gens qui font la queue pour acheter leur ticket dans une salle, qu'est-ce qui vous a décidé de voir ce film-là? Ben, c'est pas la publicité. C'est pas la promotion. C'est la bande-annonce, parce qu'ils apprennent quelque chose sur l'histoire. Et autant que nous étions furieux avant, quand un journaliste racontait l'histoire du film dans sa critique, autant maintenant, c'est la meilleure promotion possible pour le film, parce que les gens veulent voir une histoire. Et donc, la distribution devient un peu plus difficile, mais enfin, revenons aux fabricants de programmes que nous sommes. Alors, j'ai une seule fois de ma vie fait un film pour la télévision. C'est quand Romer a décidé de faire sans scénario Le Rayon Vert.
Oui.
C'était la Bible, c'était le scénario. C'est comme s'il y avait deux personnes différentes, le scénariste et le metteur en scène. Alors que c'était la même personne, c'est écrit là, on fait ce qui est écrit. Et donc, il voulait faire une expérimentation. Est-ce que je suis capable de raconter une histoire directement en image? Et je voulais pas que ça apparaisse comme le nouveau film de Eric Rohmer. Donc, Canal Plus venait de se créer, et je suis allée voir Canal Plus, qui m'a aidé, ce qui a valu une avalanche de coups de téléphone des exploitants. Il n'y avait pas toute cette réglementation de l'hierarchie, de la diffusion, des films. Ils étaient pas très contents parce qu'ils se disent, si ça fait école, nous, on est foutus. Nous, les salles, on est foutus. Enfin, ça s'est à peu près bien passé. Il est passé sur Canal. Il a gagné le Lion d'Or à Venise. Oui. Donc, mais j'ai pas d'expérience. Parce qu'il faut beaucoup, c'est une expérience radicalement différente non seulement en production, mais en conception des histoires, en les séries, dans la façon de les tourner. Il y a beaucoup moins de temps que pour faire un film, donc il faut être très inventif dans la mise en scène. J'ai un ami qui mettait la caméra sur un travelling et il faisait tous les plans de la journée à partir du travelling pour filmer un repas, par exemple, d'une société de 10 personnes. Il faisait les gros plans à partir du travelling sur les uns et les autres. Quand il parlait, il faisait le plan général, il faisait un travelling tout du long pour passer de l'un à l'autre, et il montait tout ça. Donc c'est une technique de tournage très différente, des histoires très différentes parce qu'il faut concevoir une histoire pour chaque épisode, avec une fin, avec les mêmes personnages, enfin quelques personnages, les mêmes récurrents, et il faut finir sur un petit suspense pour le public
qui a envie de
le voir, le numéro 2 de la série, etc. Donc c'est une technique tout à fait différente. Et en production, c'est une technique très différente. Parce que on a... le film ne vous appartient pas vraiment. Parce que les séries, c'est très difficilement exportable. Il y a quelques-unes qui s'exportent. Quand Gérard Depardieu fait Monte Cristo, ça s'exporte. Mais il n'y a pas d'espoir de recette.
Après donc ça fabrique. Change votre métier de producteur, vous devenez...
Ça change complètement,
parce qu'il faut que le producteur délégué, quoi, enfin...
Oui, exécutif, parce qu'il faut gagner sa vie sur la fabrication. Et nous, c'était jamais le cas, on doit gagner notre vie par l'exploitation, et pas
sur
par
la
fabrique. Sur la durée. Sur le monde entier, Donc c'est un métier vraiment très très différent. J'ai parlé avec Éric Rochant, Axel Berger, qui ont fait le...
Le bureau des légendes.
Les bureaux des légendes, avec Mathieu, parce qu'on avait Mathieu dans le dernier film d'Haneke. Donc, il m'a expliqué un peu, mais j'ai creusé comment c'était. Et je me suis dit, d'autant plus que nous avons une proposition depuis très peu de temps, des Australiens pour acheter les droits de remake pour une série de Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, de 1974. Et donc, il y a un showrunner, enfin, qui est venu nous voir, qui a fait son découpage en 6 épisodes. On a trouvé ça très bien. Et donc, on est en train de faire le contrat. Je découvre un monde. Parce que ça n'a rien à voir avec les contrats de cinéma. Donc, c'est vraiment un métier différent. Et Haneke a décidé, les derniers films, après Happy End, il avait une commande de la télévision autrichienne d'il y a 35 ans d'écrire une série futuriste. Donc il me l'a donné à lire pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Parce qu'il me dit les rubans blancs, c'était une mini-série de 3 fois 1h30. Et donc on a... ça, je peux pas faire 4h30 de cinéma. Donc on a raccourci, avec l'aide de Jean-Claude Carrière, raccourci pour arriver à 2h20, qui permettait les 5 projections par jour dans les salles de cinéma. Mais 10 épisodes de 58 minutes ramenés à 2h, ça, je sais pas faire. Surtout, il avait bien construit, c'est une histoire par épisode. Et pas comme un grand arc d'une seule histoire. Et l'autre problème que j'avais, je n'avais aucune idée comment faire un film de 2h avec ça. Impossible pour moi. Enfin, je manquais d'idées. Et l'autre souci, c'est que ce qui était futuriste il y a 35 ans,
n'est plus...
c'est quotidien aujourd'hui. Les téléphones portables, les tablettes, c'est dans le métro, dans le bus, partout.
Tout.
C'est tout. Tout a changé. Donc, j'ai dit non, je sais pas faire ça. Donc, il a trouvé un producteur, la UFA en Allemagne, qui a fait un accord avec HBO. Et ça va se faire, je pense, on saura cet été.
Pendant toute cette période, vous avez, donc, votre souci premier, c'est l'indépendance des films du Losange. Vous avez aussi restauré tout le catalogue. pour le mettre à disposition aujourd'hui à travers à la fois les DVD, mais surtout la diffusion numérique. Mmh. C'est important de protéger cette marque, les films du Losange, que tous les films soient disponibles, que tous les films...
Oui. Voilà. C'est-à-dire, moi, je trouve que ce qui me donne la plus grande liberté, c'est le fait qu'on puisse exploiter notre catalogue. C'est-à-dire, pour nourrir mes 18 personnes, pour les salariés, je ne suis pas obligée de me précipiter sur une production quand je ne suis pas convaincue. Parce que c'est exploité dans le monde entier. Maintenant, avec les plateformes en Chine, oui. Enfin partout, ça continue. En plus, Eric Rohmer, il y a 22 films de lui dans le catalogue. Il y en a plus de 60 en tout produits, plus ceux qu'on a en distribution. Mais Eric Rohmer, c'est quelque chose qui peut passer en Arabie Saoudite, en Iran, en Chine, ça peut passer partout. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont fait tout leur œuvre sans politique et sans sexe. Qui sont quand même des choses impossibles à diffuser dans un nombre important de pays.
Aujourd'hui, la Chine, entre
autres.
Oui,
bien sûr. Ouais.
Mais ça, c'est la force d'Éric Rohmer.
Et le Moyen-Orient, voilà. Et l'Afrique du Nord, enfin bon, tout ça. Donc, c'est très important. Ça nous donne, ça a été, parce que l'indépendance, c'est bien, mais il faut avoir les moyens.
Bien sûr.
D'être indépendant, le moyen c'est de l'argent et le catalogue nous aide beaucoup. Donc il y a eu des aides importantes au CNC pour numériser les catalogues. On s'est jeté dessus, on a tout fait et là j'ai commencé à m'apercevoir que l'âge avance parce que Nestor Almendros mort, Éric Rohmer mort, beaucoup d'acteurs morts, beaucoup de chefs opérateurs disparus. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à parler les noms. Oui. C'était effrayant.
Oui, mais j'allais vous répondre, Margaret, que bon, c'est une question aussi qui se pose. Le cinéma français renaît tout le temps. Par exemple, quand il y a une polémique aujourd'hui, on dit on fait trop de films. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'en produisant 300 films, on en fait trop?
Peut-être, mais qui va dire lesquels il faut faire et lesquels il ne faut pas faire?
Bien sûr.
Personne. On a inventé des commissions.
Oui.
C'est encore le mieux qu'on ait pu trouver. Et puis, c'est impossible pour personne de dire...
Lesquels il ne faut pas faire.
Oui, c'est ça.
Parce que des fois, un cinéaste fait un film qui est un échec, et le coup d'après, il devient un grand cinéaste.
La preuve, Brissot, Haneke, Rohmer, dont les débuts étaient quand même pas
Rohmer,
des grands succès.
Rohmer, son premier film a été un échec là.
Bien sûr. Donc, personne ne peut dire lesquels il ne faut pas faire. On a beaucoup de sources de financement. En France, depuis 1975, mes débuts de travail comme producteur. Et aujourd'hui, les possibilités de financement se sont élargies régulièrement. On a inventé la vidéo, on a eu la VHS, on a inventé les chaînes payantes qui n'existaient pas avant. Au début, on n'avait qu'à la salle comme recette. Des films. On a inventé le crédit d'impôt, on a inventé le Sofica qui aide à financer les films. Enfin, les possibles. On a fait des accords de coproduction, non seulement avec toute l'Europe, mais avec beaucoup de pays du monde. Les possibilités de financement se sont élargies. Là, ils sont en train de se restreindre. Mais bon, on a vécu sans aussi.
Il y a des jeunes cinéastes qui viennent vous voir, qui viennent frapper à votre porte. Hommes ou femmes, beaucoup de femmes maintenant font des films, c'est une chose formidable. Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour dire oui, je vais passer un an et demi avec vous?
En tout cas, pas hommes ou femmes, parce que j'ai jamais vu la différence. J'ai travaillé avec des réalisatrices, avec Agnieszka Holland par exemple, qui faisait un film sur un jeune juif allemand dont la famille fuyait quand les Allemands ont envahi la Pologne. Vers l'Est, et donc il s'est caché dans les jeunesses hitlériennes. Donc il fallait trouver un garçon juif qui pouvait avoir l'air d'un Allemand. Alors elle passait des heures et des heures au casting, et elle me montre des gens, et me dit, tu y crois, toi? J'ai dit, mais écoute, moi je vois pas. J'ai incapable de voir si quelqu'un a un visage juif, ou un visage allemand. Pour moi, ça n'existe pas. Il me dit, mais quand quelqu'un est noir, tu le vois quand même. J'ai dit aucun rapport avec voilà. Donc j'ai jamais regardé avec Marguerite von Trotta. J'ai jamais regardé si c'était un homme ou une femme. Même quand j'engage quelqu'un au losange, j'ai jamais choisi quelqu'un parce que c'était une femme ou un homme. Ça, je suis aveugle pour ça.
Comment vous appréhendez un jeune réalisateur ou
la qualité du scénario.
La clarté du scénario.
La qualité du scénario, qualité. Parce que ça peut être pas clair, oui. Mais je vois très bien comment ça peut être clair.
Oui.
La qualité de son idée, et puis surtout un dialogue assez long avec lui, justement pour acquérir sa confiance, et que lui, il ait confiance en moi. Donc, c'est basé sur ces deux choses-là. Il faut que je trouve quelque chose qui est vraiment, qui me paraît vraiment intéressant dans son scénario. C'est pour ça que je suis un peu étrangère au moi, ma jeunesse, moi, mon mariage, moi, mon divorce. Moi, tout ça, c'est des histoires qui ne me passionnent pas beaucoup. Mais heureusement,
parce que ça arrive à tout le monde. Ce que vous cherchez, c'est l'exceptionnel.
Et puis, il faut trouver une singularité dans ce mariage, dans ce divorce. C'est pas juste, on s'est beaucoup aimé, on s'est beaucoup disputé, on s'est séparé, ça n'a aucun intérêt. Il faut rentrer dans la profondeur de l'histoire. Et donc, c'est basé là-dessus que l'intérêt de l'histoire, ou le possible potentiel d'intérêt de l'histoire. Je ne demande pas qu'on m'amène un scénario fini et tout ça, mais il faut quand même une base. Parce qu'après, on peut travailler ensemble, il peut travailler avec un co-auteur, il peut continuer à travailler tout seul. C'est du travail, tout ça, c'est pas grave. Et la confiance dans ce qu'il va faire, ce qu'il a écrit dans son scénario. Qui va pas bifurquer chemin faisant sur des à côté, sur des finasseries sans intérêt, etc. Qui va vraiment raconter ce qui est écrit.
Son histoire.
Ça, c'est la leçon de Romer. Il faut raconter ce qui est écrit.
C'est curieux parce que Romer, en fait, c'est une leçon très classique d'être fidèle à ce qu'on a écrit et de s'en tenir à ce qu'on a écrit pour en tirer le meilleur. Enfin.
Bien sûr, bien sûr. Le meilleur vient souvent de la profondeur. La profondeur avec laquelle on rentre dans les caractères des personnages, la profondeur avec laquelle on rentre dans les aventures, l'histoire que vivent ces personnages. Et si c'est superficiel, c'est pas très intéressant.
On vous caractérise souvent, Margaret Menengos, comme quelqu'un de l'ombre. Vous préférez rester en retrait. Pourtant, France Culture vous a remis un prix lors du dernier Festival de Cannes. Vous avez accepté, c'est un prix très honorifique. C'est important pour vous de rester comme ça, dans l'ombre, pour mettre en lumière le film et celui
Mais c'est mon travail, ça. Le metteur en scène, il doit être dans la lumière.
Ouais.
Et le producteur, il est dans l'ombre. C'est normal pour moi. C'est pas une volonté d'être dans l'ombre ou d'être à la lumière, mais je trouve il y a beaucoup trop de j'ai des collègues où je trouve qu'il y a beaucoup trop de ego. Moi je quoi sans auteur, ils font quoi? Ils sont au chômage technique. S'il y a pas quelqu'un qui prend une page blanche pour commencer à raconter une histoire, qu'est-ce qu'il veut me produire? Tout est dans l'auteur. Et on est là pour les aider à accoucher de leurs idées, à arriver à leur donner les moyens de les faire concrètement en images, ce qui a été écrit sur du papier.
Et cette idée-là, elle vous anime aujourd'hui encore. Vous avez vous attendez encore jeunes gens talentueux.
Absolument. Je ne sais pas s'ils sont talentueux ou pas au départ, tant que vous n'avez pas travaillé avec quelqu'un. Vous pouvez pas le savoir, vous pouvez bien sûr vous tromper, ça m'est arrivé aussi. Mais si ils ont quelque chose à raconter et qu'ils savent comment le raconter, et ça se voit même sur, 20 pages mal fichues, s'il y a quelque chose dedans qui vaut la peine, qu'on se décarcasse, comme on dit.
Par exemple, votre savoir-faire, votre métier, votre passion. J'allais dire, oui, c'est plus une passion qu'un métier produit. Enfin, encore que ça s'apprend maintenant à la FEMIS, on apprend le métier de producteur. Vous considérez que On a déjà fait appel à vous pour transmettre votre savoir-faire ou...
Ah bah oui, il a fait Miss, il est, comment ça s'appelle, une grande école polytechnique.
Polytechnique, oui.
Voilà, il y avait des professeurs qui voulaient qu'on parle de cinéma, etc. Et il a fait Miss, j'étais assez effrayée parce qu'ils m'ont posé des questions... Je ne savais même pas ce que ça voulait. Si j'ai travaillé avec les capital risques, je ne savais pas ce que c'était, les capital risques. Et à la fin, ils m'ont fait une leçon sur comment il fallait gérer l'argent. J'ai essayé de leur expliquer que c'était secondaire, qu'il fallait d'abord gérer les récits, enfin la qualité de ce qu'on fait, les films. Et après, c'est accessoire, le métier de chercher l'argent nécessaire pour le fabriquer. Ça n'a pas très bien marché. Et encore aujourd'hui, quand je dois... On engage des stagiaires sur les films, soit pour la mise en scène, soit pour l'image, soit pour le son, etc. Il y en a beaucoup qui se proposent de faire un stage de production. Quand ils sortent de la FEMIS, ils ont un stade qui correspond à premier assistant. Ils ont à peine entrevu un tournage de leur vie. Et quand il y a un autre jeune homme ou jeune femme qui propose, qui a déjà porté les cafés sur un tournage, une ou deux fois, qui s'est déjà occupé un peu de logistique sur un tournage, où on mange, où on dort, qui voyage avec quelle voiture, à quelle heure, enfin, toutes ces choses-là. Je préfère mille fois celui qui a déjà vu, qui était sur le tas, les mains dans le cambouis, même un peu, même en périphérie, que un élève, parce que c'est pas un apprentissage théorique. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre. Le métier de producteur, ça peut pas s'apprendre à l'école.
Ça s'apprend.
Sur le tas.
Voilà, sur le tas.
C'est comme un apprentissage. Nous sommes des artisans qui sont capables de transmettre à des apprentis, mais on ne peut pas transmettre aux gens qui savent déjà tout. De par leur scolarité, qui ont fait bac plus 3, plus 4, plus 9. Enfin, au Losange, on a régulièrement des stagiaires, d'autres quelques-uns formidables, mais qui sont bac plus, plus, plus.
Mais le cinéma attire beaucoup les jeunes diplômés. Oui, on a tout fait pour les faire en sorte qu'ils soient attirés.
J'ai jamais chopé un jour deux dans le bureau de régime. Il y avait deux jeunes gens qui venaient la voir. Un qui sortait de HEC, qui était le producteur, et l'autre de Sciences Po, qui était l'auteur. Et donc, poliment, je leur dis bonjour, et je leur demande qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma. Parce qu'on ne nous avait pas parlé de leur lecture, des cinéastes qu'ils avaient, enfin, rien de tout ça. Donc, ils nous ont expliqué qu'ils avaient envie d'être indépendants, entrepreneurs. Il dit, vous connaissez beaucoup de métiers où en 10 rendez-vous, on peut ramasser 3 millions d'euros au lieu de faire, et sans faire des dossiers de plusieurs kilos pour les banques. Eh bien, c'est le cinéma. Alors, je lui dis, mais après, il faut faire le film. Ça, on trouvera quelqu'un.
Oui, mais
donc, ça attire beaucoup, mais pour des mauvaises raisons, parce que je vous assure, ça peut être atrocement galère, quand même. Quand vous êtes pour parfois des bêtises, pour le fait que dans le dernier film, par exemple, il fallait raccorder le grand soleil avec la marée haute du côté de Calais. On avait un tournage, Jean-Louis Trintignant devait aller avec sa chaise roulante dans la mer. Il y a eu la marée était très forte, elle est montée très vite. Il y a un couple de touristes qui s'est fait coincer sur un récif un peu plus loin. Pompiers, ambulances, ils étaient complètement bloqués. Et ça arrive très rarement dans le Nord que tout ça marche ensemble. La marée haute, Anneke était fou, disant, mais c'est pas possible que ça change tous les jours, la marée.
Tous les jours, la marée.
Oui, ils connaissaient la Méditerranée. Ils connaissaient toutes ces vacances, il les a passées, comme beaucoup d'Allemands, admirateurs de la Grèce ancienne, etc. En Grèce, zone de marée,
Donc le cinéma, ça a beaucoup.
Donc, il faut gérer tout ça, voilà, si
les
vous
intempéries,
voulez.
Les accidents,
les accidents, parce que les difficultés d'un acteur.
Et parce que tout ça coûte cher pendant.
Voilà, bien sûr, les acteurs qui arrivent le matin en maquillage. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À la 63, scénario, savent pas le texte. Ils ont oublié la scène et au maquillage, ils se répètent vaguement leur dialogue. C'est, il faut être là, il faut dire au metteur en scène, on aura 20 minutes de retard pour que l'autre soit prêt, ouais, pour que lui puisse travailler. Parce que tant qu'il sait pas son texte, il peut pas travailler.
Donc il faut à la fois le faire et il faut savoir le faire en aimant ça.
Oui, voilà, bien sûr.
En ayant la passion de ça.
On ne peut pas le confier à quelqu'un, ouais, certaines choses. On ne peut pas. On ne peut pas dire la maquilleuse n'a qu'à lui apprendre son texte. Ce n'est pas possible.
Mais j'ai l'impression que, Margaret Mengos, tout ce que vous me dites là, c'est la réponse à la question est-ce qu'on fait trop de films ou pas. Si on les fait tous avec cette exigence, peut-être que les films seraient meilleurs.
Mais peut-être ils sont tous faits avec cette exigence. C'est possible. Parce que ça, c'est des choses, comment dire, qui viennent après. L'exigence est nécessaire sur le scénario, au départ.
Et vous trouvez qu'on, par exemple, en France, c'est un des reproches qu'on fait au cinéma français, c'est que le scénario n'est pas assez bien financé. L'écriture n'est pas assez financée. Vous le pensez
aussi ? Absolument. Parce que si vous voulez, beaucoup de producteurs sont dans l'idée, il faut que courir au plus vite au tournage. Parce que tout l'argent duquel un producteur peut disposer pour financer un film, il existe en liquide.
Il est débloqué au moment du tournage.
Voilà. Et tout ce qui est avant, il est tout seul. Et l'auteur tout seul. Donc, je pense que c'est un mauvais calcul parce que tout ce qu'on n'a pas fait de travailler avec l'auteur, le travail de préparation, où on tourne pour trouver cette fameuse plage pour Happy End, on a fait toutes les plages de l'océan, toutes les plages de Bretagne et la Normandie pour trouver un endroit où c'était, parce qu'il faut, j'ai dit, il faut qu'il puisse rouler droit dans la mer avec son fauteuil roulant, que ce soit pas trop loin, il faut une configuration. Par contre, le restaurant qui est au bord de la mer, on a dû le faire en studio. Parce que le vrai restaurant qu'on voit en extérieur, il fallait sortir par les cuisines pour arriver à la plage. Donc on a dû construire l'intérieur du restaurant en studio. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir que les producteurs aient plus de moyens. Parce que quand ils sortent pas d'un succès, ils ont pas d'argent. Et donc, il faut qu'ils trouvent de l'argent pour l'écriture, parce que souvent, vous avez une bonne idée dans un scénario, mais il faut le temps de la sortir de sa gangue et de la développer, de la construire. Et l'auteur, si vous voulez, il faut qu'il mange et qu'il dorme quelque part. Ils sont pas tous chez papa et maman encore. Donc il faut qu'ils soient rémunérés pour le travail de faire le scénario bien comme il faut.
Merci, Margaret Mengos, pour cette avoinue. On a appris beaucoup de choses sur vous personnellement, mais aussi sur votre travail de directrice des films du Losange. Merci, bonsoir.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Serge Toubiana avec Margaret Mengos. À voix nue. Réalisation Thomas Duterre, prise de son Laurent César, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.